Bonjour, bienvenue à tous à cette troisième conférence du cycle de conférences de la chaire de recherche du Canada en droit et en médecine. Le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est le patrimoine commun. C'est l'évolution d'une notion nouvelle, le patrimoine commun de l'humanité. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité très distingué. Il s'agit de Monsieur Sampung Surutchakut. Et il est vice-doyen et professeur, chaire de droit international et de droit comparé. Il est aussi, il est à la faculté de droit de l'Université de Golden Gate. C'est un ancien membre et aussi rapporteur spécial de la Commission du droit international. C'est un ancien membre de la Commission d'indemnisation des Nations Unies. Il est ancien ambassadeur de Thaïlande, entre autres en France, au Japon. En Israël aussi. Il est aussi membre titulaire de l'Institut de droit international. Alors, comme vous voyez, on a beaucoup de chance d'avoir une personne aussi illustre aujourd'hui pour nous parler du patrimoine commun. Alors, sans plus de présentation, Monsieur Sampung Sucharitkul.
Mesdames et messieurs, chers consoeurs et confrères, je suis très honoré d'être venu ici et je tiens au premier abord à exprimer mes remerciements à Monsieur Yann Jolly pour l'introduction si aimable et aussi pour que la chaire, la professeure Knoppers, d'avoir eu la peine et aussi la gentillesse de m'inviter. Le sujet qui m'a été assigné, c'est l'évolution d'une notion nouvelle, le patrimoine commun de l'humanité. Et je vais présenter ce thème dans trois, quatre, avec la conclusion, ça fait en cinq parties. Donc, la première partie, c'est le caractère évolutif du droit international. Et deuxièmement, c'est le patrimoine commun de l'humanité, c'est l'idée, la notion juridique. Et puis, c'est l'obligation concernant le patrimoine commun de l'humanité. Et quatrièmement, en ce qui concerne l'obligation concernant la santé publique, c'est le bien commun et la santé, c'est le thème général du cycle de conférences aujourd'hui. Heureusement, j'ai déjà, je viens de terminer la composition écrite du texte de la conférence que je vais donner, mais je ne donne pas lecture parce que c'est un peu long. Donc, je vais présenter seulement une brève, un bref présentation, exposé, parce que, en premier lieu, le caractère évolutif du droit international me paraît nécessaire pour avoir l'idée, comme juriste international, il faut rappeler que l'origine européenne du droit international est très intéressante parce que on a commencé l'ère de l'application du droit international après la convention le traité de Westphalie de 1648 c'est-à-dire l'origine actuelle, moderne, plutôt internationale, qui dès l'origine, c'est européen. Qui dit européen dit aussi dans le temps une culture unique qui était européenne et en même temps catholique, sinon chrétienne. Mais le monde, après l'Académie des droits internationaux, à La Haye, est beaucoup plus diversifié, parce qu'il y a le monde plus multiculturel. Et est-ce qu'on peut utiliser le droit, le système de droit international européen ou unique pour tout le monde? Est-ce qu'on ne peut pas globaliser ou internationaliser ce système de droit des gens pour tous les pays du monde? En général, le droit international avait commencé avec l'Europe. Dès la répartition ou la division des États européens comme États séparés, autonomes, et chaque État avec parcelle de territoire souverain, c'est-à-dire la légalité et la souveraineté des États qui venaient d'être établis en droit des gens. Commun chez les Européens. Mais pour les autres pays, est-ce qu'il n'y avait pas d'un autre système de droit international avant? Parce que bien longtemps avant le XVIIe siècle, il y en avait des rapports internationaux, des relations diplomatiques internationales chez les Asiatiques, entre le CIEM, la Chine et le Japon. Mais il y en avait aussi des rapports interétatiques entre l'Asie et l'Europe. J'ai raconté, vous pourrez lire dans l'article que je viens de terminer, il y a toute une histoire de relations pacifiques entre la Thaïlande et les Pays-Bas, déjà au début du XVIIe siècle, et aussi avec la France, il y a l'échange des ambassades. Dans le temps, vous voyez que la culture entre les deux continents était tout à fait différente, dans ce sens que lorsque l'ambassadeur de Thaïlande était venu au château de Versailles pour présenter ses lettres de créance, il y a le couple, toute une partie des Thaïlandais, l'ambassadeur, le ministre et le secrétaire qui étaient, non pas à pied, mais étaient à genoux, qui marchaient à genoux pour présenter les lettres de créance au roi Louis XIV. À l'inverse, tandis que le chevalier de Chaumont, baron de Chaumont, l'ambassadeur de France, était venu en Thaïlande, alors dans le palais d'été de Lopburi, le roi de Thaïlande devrait construire, il y a le pavillon dont le roi était assis sur le seuil de la fenêtre pour que l'ambassadeur de France pourrait présenter ses lettres de créance tout en restant debout. Parce que on savait pas si l'ambassadeur de France savait marcher à genoux. Donc ce serait difficile. Donc déjà, il y a tendance pour concilier les différences culturelles, pour que les relations d'amitié et de paix pourraient se posséder sans produire des conflits, non pas des conflits armés, mais des conflits idéologiques, des conflits culturels. C'était déjà une période assez intéressante, mais c'était pas raconté, ni par Hugo Clausius, parce qu'il y en avait de pareilles missions de la part de la Thaïlande à Amsterdam, avant 16 ans, 1614, 1617, déjà il y a un accord de commerce entre le Siem, c'est-à-dire la Thaïlande, et le Pays-Bas. Mais de quoi s'agissait-il? Est-ce que les rapports interétatiques entre l'Asie et les pays européens réglés par une espèce de droit international? Mohamed Bejawi, l'ancien président de la Cour internationale de justice, un juriste algérien, avait raconté aussi la possibilité de cette espèce de droit sur un mode, il a dit marginal. Mais il existait de façon quelque genre de droit international qui n'était pas tout à fait différent au droit international d'origine européenne. Ça ne pouvait pas être autrement. De toute manière, quand on arrive au 19e siècle, vous savez que le droit international restait toujours européen. La conférence, la convention de Vienne, le concret de Vienne de 1815 n'était que européen. Même le concret de Berlin de 1885 était aussi toujours exclusivement européen. Il fallait attendre jusqu'à presque la fin du 19e siècle pour voir convoquer la conférence de la paix à La Haye de 1899, la première conférence à laquelle étaient invités aussi le Siem, le Japon, la Chine, la Perse et quelques pays d'Amérique latine. Les États-Unis participaient à la deuxième conférence de la haie de la paix en 1907. Et puis, il y avait la guerre mondiale, la première guerre et la deuxième guerre. Donc, il faut voir déjà que le droit international et européen devait être modernisé, devait être internationalisé, devait être globalisé pour que s'appliquer à tout le monde, à tous les pays. Il y avait le jurisconsul ou le chef ministre de Thaïlande qui était Gustave Paulin Jacquemin, un ministre belge, qui travaillait dans le temps comme jurisconsul de conseiller au roi, et il était aussi membre fondateur de l'Institut de droit international depuis 1673 à Caen, c'est-à-dire en Belgique, et puis maintenant l'Institut déménagé à Genève depuis quelques années déjà. Mais il avait proposé que les pays asiatiques devraient aussi changer l'attitude pour qu'on pourrait faire comprendre aux pays occidentaux, parce que tout le monde devrait savoir vivre ensemble dans une relation paisible pour que l'on puisse voir unifier le droit international. Autrement, le droit international devait aussi être non seulement élargi, non seulement étendu dans l'application, mais aussi devait être humanisé. L'humanisation du droit international a eu lieu même avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire le commencement du droit humanitaire, les règlements de la haie aboutissant dans l'adoption de la Convention de Genève de 1949 et des protocoles de 1977 pour ce qu'on appelle parfois le droit de la guerre ou le droit régissant le conflit armé qui, d'un autre aspect, est le droit humanitaire et aussi les droits de l'homme. Non, je vais aborder ensuite la notion ou l'évolution de la notion juridique du patrimoine commun de l'humanité. En tant que bouddhiste, je crois que il n'y a rien de permanent, parce que le Bouddha avait dit que sape sankhara anicchati. Toutes les choses corporelles devraient changer. Elles ne sont pas permanentes, elles sont impermanentes. Donc, tout devrait évoluer, tout change. Mais cet adage est vrai aussi pour les choses incorporelles, c'est-à-dire pour une notion juridique qui n'a pas de corps, mais qui devrait changer comme le caractère évolutif du droit international que vous avez vu et la notion juridique quelconque comme la notion du patrimoine commun de l'humanité est un résultat d'une évolution constante depuis quelques décennies. C'est encore récent, mais ça a été devenu possible parce qu'il y a des progrès du développement du droit international. Parce qu'on parle d'ici du droit international, mais le droit international tire des exemples du droit national, c'est-à-dire du système juridique en pratique dans les États membres de la communauté internationale. La notion du patrimoine commun provient peut-être de la notion du bien commun. Le bien commun existait déjà chez les Romains, parce qu'en droit romain, même en droit civil de chaque pays, de Québec, de Thaïlande, de la France, de l'Allemagne, il y a la res publica, la res extra commercium, c'est-à-dire hors de commerce qui appartient à personne, mais qui appartient à tout le monde en commun. Donc, en droit international, il y a aussi, au premier abord, il y avait l'idée de condominium, c'est-à-dire répartition partage de souveraineté territoriale sur un territoire quelconque. Mais ça, c'est pas la même chose que le patrimoine commun, dans ce sens que le patrimoine commun de l'humanité est plutôt comme le domaine public, dans ce sens que cela n'appartient à aucun État en particulier, à aucune société ou aucun individu, mais qui appartient à tout le monde. Tout le monde dans ce sens que à toute l'humanité, à l'ensemble de l'humanité. Or, la conception de l'humanité est une conception assez nouvelle. Parce que, à l'origine, dès l'origine, le droit international n'a pas tenu compte de l'humanité, pas du tout. Les sujets de droit international ne consistaient que les États et puis les organisations internationales. Les êtres humains étaient tenus en compte depuis le droit de la guerre, depuis le droit humanitaire. C'est pour l'humanisation du droit international, dans ce sens que l'idée d'humanisation, de l'unification, de l'expansion, de l'étendue, de la notion d'une collectivité humaine devait être une idée générale qui englobe toutes les espèces humaines que l'on peut définir en sciences biologiques comme un Homo sapiens. Avant, vous vous souvenez que la charte, la Grande Charte Magna Carta de 1215 en parlait seulement que les droits, les privilèges des barons. Même la Déclaration des droits de l'homme et de citoyen, déclaration française, ne parlait peut-être que des citoyens. Les Romains parlaient toujours des patriciens et beaucoup moins des plébiens, c'est-à-dire des peuples ordinaires. Donc il y a toute une classification différente. Même chez les hindous, il y a quatre castes. Et puis, le caste mixte, c'est le pire. Maintenant, il faut une approche scientifique et l'unification de la conception de l'homme. Je m'excuse, je parle de l'homme, je veux dire le droit de l'homme, je veux dire aussi le droit humain, c'est-à-dire l'expression l'homme dans ce sens collectif, c'est-à-dire y compris la femme, l'enfant, toute la famille humaine, les êtres humains, si vous voulez. Les premiers exemples de patrimoine commun de l'humanité commençaient avec peut-être les fonds marins, peut-être les zones dans le droit de la mer, parce que dans les années 50 déjà, on commence à voir développer et évoluer le nouvel ordre de droit de la mer, c'est-à-dire les États côtiers devraient élargir leur domaine aux dépenses des hautes mers, n'est-ce pas, qui était, d'après Grotius, déjà quelque chose de commun de patrimoine commun peut-être, mais l'idée de patrimoine commun fut plus concrétisée avec, dans le cadre de la sous-commission des fonds marins qui était établie, oui, beaucoup plus tard, après les quatre conventions de 58. J'ai raconté que peut-être on peut citer le discours de l'acceptation de la présidence de la première conférence du droit de la mer en 1958 de Prince Juan, c'est mon compatriote qui était président. Il avait référé aux ressources naturelles de la mer qui appartiennent, il fait partie du patrimoine commun de l'humanité, c'est-à-dire appartenant à aucun État en particulier, mais à la communauté collective étatique et devait être répartie ou développée, explorée, exploitée au bénéfice, dans l'intérêt général ou dans l'intérêt commun de l'humanité. Avant, vous voyez que Kossuth avait raconté que les ressources de la mer étaient inépuisables. Ce n'est pas possible d'épuiser. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a des espèces biologiques marines qui étaient déjà en disparition. Et on n'est plus dans le beau temps de 17e siècle, on est maintenant au commencement du 21e siècle, tout est changé, il faut régler, il faut conserver, sinon le patrimoine commun de l'humanité devrait aller dissiper et diminuer, donc il faut tâcher à préserver, sinon conserver, pour prolonger l'existence au profit des générations humaines à venir. C'est ça la thèse que j'ai proposée. Et la notion de patrimoine commun de l'humanité commençait avec le droit de la mer, avec les fonds marins, hors de la juridiction nationale, et on se trouve identifié dans la convention de 1982, maintenant était entré en vigueur depuis l'année 94. Donc déjà, on a vu fonctionner le tribunal de Hambourg, le tribunal du droit de la mer, etc. C'est un peu réglé dans ce sens. Vous voyez concrètement la notion du patrimoine commun de l'humanité en pleine opération en ce qui concerne les fonds marins. Il s'agissait donc du domaine terrestre, mais il y a aussi le domaine céleste du patrimoine commun de l'humanité. Le domaine céleste appartenait peut-être, vous avez vu, après l'ère de Spoutnik, c'est le commencement du régime d'extra-atmosphérique que le progrès scientifique a réclamé pour le monde, peut-être la découverte de l'atmosphère, de l'espace extra-atmosphérique, des corps célestes, y compris la Lune. Et vite, les États étaient d'accord pour prononcer que alors il faut prohiber l'usage militaire de l'espace extra-atmosphérique. Il ne faut pas approprier. Voilà, c'est déjà le commencement de l'application de la notion du patrimoine commun de l'humanité. Que cela, que l'espace extra-atmosphérique appartenait à tous les États et non pas à un État en particulier et n'est pas susceptible d'appropriation. Madame Suzanne Bastide de l'Université de Paris avait dit également dans ce sens qu'il faut une réglementation plutôt internationalisée, peut-être par une commission des Nations Unies pour régler la question d'exploration, la question d'expérimentation et d'exploitation des ressources dans la Lune, peut-être il y a la Convention de la Lune, peut-être toutes ces conventions de droit de la mer en 82 et de la Lune n'étaient pas, jusqu'ici, ne sont pas encore ratifiées par les États-Unis d'Amérique, qui est un peu troublant parce que on ne sait jamais pourquoi. Est-ce qu'il y a quelques oppositions? Bien sûr, il y en avait des oppositions à l'intérieur des États-Unis. Mais ce qui sert à retarder un peu le progrès du développement, de l'évolution de la notion du patrimoine commun de l'humanité. Mais un troisième domaine du patrimoine commun de l'humanité se trouve dans le domaine que j'ai libellé, peut-être incorporel, c'est-à-dire dans les droits de l'homme. Et je voudrais aborder un petit peu la nature juridique des droits de l'homme. Les droits de l'homme ne sont pas comparables aux droits civils ou aux droits commerciaux, dans ce sens que le droit humain ou le droit de l'homme s'applique dans le sens qu'il faut y avoir le contenu du droit de l'homme est borné, est cerné par l'obligation correspondante, c'est-à-dire la corrélative, l'obligation corrélative de la part des sujets de droit international. Parce que le droit de l'homme n'existe que dans la perspective du droit international, à mon sens. Et bien sûr, il y a des droits civils, des droits civiques qui existent, qui sont garantis par les constitutions, constitution canadienne, constitution américaine, constitution française et d'autres constitutions. Mais il s'agit de protections constitutionnelles étatiques. Ce qui est plus important, c'est ce qui est accepté en général, universellement, par les États, par l'intermédiaire de peut-être une déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, les pactes, les deux pactes des Nations Unies ou les droits économique, social et culturel, ainsi que les peuples, les droits civils et politiques, ça vous trouverez concrètement l'application des droits humains ou droits de l'homme garantis et assurés. Des instruments internationaux. Et maintenant, vous savez, il y a le Conseil des droits de l'homme qui vient d'être installé et mis en œuvre, mis en application, mis en opération à Genève pour remplacer les commissions des droits de l'homme J'espère qu'on va voir dans l'avenir le plus proche quelques progrès concrets dans ce sens que de plus en plus on va reconnaître, on va donner suite et on va donner effet aux aspirations concernant l'acceptation la matérialisation des droits humains ou des droits de l'homme. J'ai analysé un peu la nature de l'application incombant à l'État, aux États, aux organisations internationales spécialisées à cause de leur mandat, de leur mission, parce que premièrement, directement, c'est à l'État que les droits de l'homme, en tant que patrimoine commun de l'humanité, parce qu'il appartient à l'humanité tout entière d'exercer ce droit. Et il faut l'État, le correspondant, de remplir toutes leurs obligations pour préserver et pour réaliser, matérialiser les droits de l'homme en tant que patrimoine commun de l'humanité. J'ai touché un peu, vous voyez déjà, c'est pas difficile pour vous qui connaissez mieux peut-être le droit civil, la nature de l'obligation de résultat, obligation de comportement, et l'obligation mixte, l'obligation peut-être de jusqu'au James qui est beaucoup plus absolue. Et il y a d'autre part une obligation un peu volontaire, c'est-à-dire moins liant, moins strict dans ce sens que c'est peut-être, il s'agit du domaine de soft law. Peut-être un statut nascendi, c'est-à-dire dans le processus de mûrir comme une norme juridique internationale. Mais avant ça, il y a embryonique, il y a cette norme, un processus de concrétisation, de matérialisation. Vous voyez que dans le domaine du patrimoine commun de l'humanité, en ce qui concerne le droit à la santé, par exemple, qui est le centre de notre attention, il s'agit de l'obligation de la part des États, incombant aux États, obligation seulement de comportement, dans ce sens, il n'y a pas d'obligation de résultat. Il n'y a pas d'obligation de prévention, on ne peut pas prévenir. Mais il faut démontrer que les États prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir les épidémies et pour soutenir les droits à la santé. Et j'ai aussi abordé les idées connexes, c'est-à-dire le droit à la santé fait partie du droit à la vie et à la survie, et c'est très relatif au droit à l'alimentation, à la nourriture, à l'abri de la faim, le droit à l'environnement, le droit au développement, le droit au travail, etc., etc., qui ne sont pas d'obligations parfaites, qui sont d'obligations imparfaites, c'est-à-dire ça dépend des conditions dans lesquelles un État se trouve, ça dépend de la capacité, des ressources disponibles dans l'État. Donc il faut voir Ici, j'ai cité l'exemple, les bons exemples du Canada, par exemple, qui étaient peut-être à la tête du développement en faveur de la médecine, en faveur de la santé. Et j'espère que les autres États, en temps voulu, auraient été en position de suivre les bons exemples du Canada. J'ai vu que dans la région asiatique, il y a la conférence des ministres de la santé de l'ASEAN, des pays, de 10 pays du sud-est asiatique, avec 3 autres, c'est-à-dire la Chine, le Japon et la Corée, pour comparer leurs notes, pour voir si on ne pourrait pas avancer un peu plus de plus tout en soutenant la conservation, l'amélioration, la promotion de la santé publique. Donc, dans le même sens, la Convention européenne aussi, les pays européens sont dans le même sens du développement que le Canada. Donc, mes félicitations. Et l'Université de Montréal a pris l'initiative et je suis très, très heureuse d'être ici pour participer à ce colloque, à ce cycle de conférences. Et je m'arrête maintenant pour donner l'occasion de répondre à des questions que vous serez gentil de poser. Merci.
Merci beaucoup, professeur Soucharitkul. Alors, on va prendre quelques questions. S'il y a des gens qui ont des questions sur l'exposé du professeur Soucharitkul. Oui, mademoiselle, allez-y.
Moi, j'utilise sur la problématique de l'eau. Moi, il y a une notion aussi de l'eau comme patrimoine commun de l'humanité. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui disent que ce concept brille par cette incohérence, compte tenu que l'humanité n'est pas comme un sujet de droit, qui n'a pas une personnalité juridique. Et comment on va protéger, par exemple, la ressource au nom de l'humanité? C'est qui va prendre ça en charge? Comment on peut défendre l'humanité comme ça?
Merci, c'est une question, c'est très intéressant. Vous voyez que j'ai déjà tranché un peu cette question, parce que de quoi il s'agit? Est-ce que l'humanité a un statut juridique noté, reconnu en droit international? Est-ce que l'humanité est un sujet de droit international? Non seulement les êtres humains, mais l'humanité en tant que collectivité. Il me paraît que oui. Maintenant, c'est pour ça que c'est à la base de la notion juridique même du patrimoine commun de l'humanité. S'il n'y a pas le patrimoine de l'humanité, c'est l'humanité qui devrait profiter, n'est-ce pas, qui est sujet de droit, non seulement objet, mais aussi sujet de droit international, qui devrait être protégé. Mais je crois que vous êtes mieux placé maintenant. Avant, oui, la dernière décennie, peut-être c'est plus difficile, mais maintenant, il faut lui répondre que oui, vous êtes déjà démodé. Mais maintenant, on est arrivé à accepter l'idée et la notion juridique et le statut juridique de l'humanité en tant que telle. Et certainement, l'UNESCO, dans la convention de 1972, qui a reconnu le patrimoine mondial, culturel et naturel, ce qui appartient non seulement à, comme le Bouddha, le statut du Bouddha Bamiyan, en Afghanistan, ça n'appartient pas à Afghanistan. C'est l'héritage commun, c'est le patrimoine commun de l'humanité tout entière. C'est pour ça qu'il enfonce autour de l'UNESCO de protéger en tant que organisation, institution spécialisée des Nations Unies. Merci.
Est-ce qu'on a une autre question pour le professeur Soucharitkul? Moi, j'avais une question à vous poser, professeur Soucharitkul, par rapport à la relation entre la notion de patrimoine commun et la notion d'intérêt général. J'ai vu que souvent, on parle du patrimoine commun comme de quelque chose qui est affecté à l'intérêt général, qui est finalement le servant de l'intérêt général. Et je voulais savoir quelle était votre opinion là-dessus.
Merci beaucoup. Vous avez absolument raison. Parce que l'idée de l'intérêt général se trouve intégrée et c'est à la base du patrimoine commun de l'humanité. C'est sur la base de l'intérêt général qu'on a construit la notion du patrimoine commun. Vous savez que dans un droit public, droit français, droit administratif, on parle de l'intérêt général, n'est-ce pas? Tandis que chez les common law, on parle de public purposes. Ce qui me paraît comparable, ce qui me paraît semblable, c'est pas tout à fait identique. Mais l'intérêt général, c'est Madame Bastide, l'intérêt général, c'est aussi la convention de droit spatial. C'est toujours faire référence à l'idée de l'intérêt général. Et qu'est-ce que ça veut dire l'intérêt général? Je dis que c'est pas l'intérêt spécial, c'est pas l'intérêt particularisé. Pas un intérêt qui appartient à un secteur public, mais à tous les secteurs dans l'ensemble de la communauté, de la collectivité humaine ou étatique.
Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, alors on va peut-être passer à un dîner léger. Je vous remercie encore, professeur Soucharitkul, pour cette très intéressante conférence. J'ai particulièrement apprécié la progression historique, tout le développement que vous avez fait du droit international et cette évolution vers le patrimoine commun et vers un élargissement de ce patrimoine commun. Alors, merci beaucoup. La prochaine conférence du cycle de la chaire aura lieu le 22 novembre. C'est la dernière, donc, avant les vacances d'hiver. Et elle sera en anglais. Le titre de la conférence, c'est « Patents, the Healthcare System and Benefit Sharing ». Et c'est Laurie Sheramita, qui est agente de recherche à la Faculté de droit de Calgary en Alberta, qui va nous donner au Manitoba, qui va nous donner cette conférence. Merci beaucoup. Merci.